Vous écoutez France Culture.
Je veux que tout change.
Vous entrez dans les ateliers de la nuit. C'est une émission particulière ce soir, dernière de l'atelier du son. France Culture, pour fêter le dernier jour de la grille de l'année, a inversé toute la journée les producteurs et les horaires. Thomas Baumgartner, qui est habitué au vendredi 23h, vous l'avez entendu cet après-midi, il s'amusait à prendre la place de Marie Richeux pour l'émission Pas la peine de crier. Ce soir, c'est Toufik Hakem qui prend le relais. Il se pose la question de l'évolution du son à la radio depuis 40 ans. Il a choisi d'inviter deux hommes, deux générations de chargés de réalisation. À France Culture, on n'entend pas souvent parler les chargés de réalisation. Ils ont d'autres façons de s'exprimer, à travers le son, la façon de l'organiser. Vous les connaissez donc par cœur, sans le savoir. Ce sont eux qui, avec nos voix, avec nos sons, font la radio. Gilles Davidas a réalisé des heures d'émissions, de documentaires depuis 40 ans. Philippe Baudouin, lui, est arrivé plus récemment, mais ce sont les mêmes questions qui les font faire de la radio. Comment faire entendre ce qui est à venir, ce que l'on n'a jamais eu dans l'oreille? Comment inventer, atteindre le nouveau son? On les appelle les chargés, et c'est bien parce qu'ils ont une mission. Les voilà enfin pour en parler.
En raison de l'arrêt des émetteurs MF, nous conseillons aux auditeurs qui nous écoutent actuellement en modulation de fréquence de régler leur récepteur sur 1829 mètres grandes ondes, 164 kHz, et s'ils habitent la région méditerranéenne, sur l'émetteur de Marseille, 444 mètres ondes moyennes, 675 kHz, ou sur l'émetteur de Nice, 222 mètres ondes moyennes, 1350 kHz. Et s'il réside dans l'Est, sur Strasbourg, de 158 mètres ondes moyennes, 1161 kHz, la diffusion de France Inter en MF reprendra à 7 heures. France Inter, il est minuit.
France Culture, il est 23h. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gilles Davidas.
Bonsoir.
L'extrait qu'on vient d'entendre, c'était il y a tout juste... C'était en quelle année, Gilles Davidas?
Vous qui avez là. 82, je crois. Août 82, un truc dans ce genre-là, oui. Avec Jean-Pierre Chabrol, la porte d'embarquement.
Soirée spéciale pour une journée particulière. Le jeu des chaises musicales continue et enchamboule tout à tous les niveaux, car jusqu'à minuit, ce sont les réalisatrices et les réalisateurs, celles et ceux qui habituellement font la radio sans prendre la parole, qu'on va entendre. Et pour commencer, vous, Gilles Davidas.
Parfois, ça vaut mieux de ne pas la prendre la parole.
Pourquoi vous le dites?
Parce que je me connais.
Et surtout, vous connaissez les producteurs, c'est ça?
Je les connais bien aussi. Non, mais eux, ça va. Ils sont payés pour.
Alors, Gilles Davidas, ça fait tout juste... je ne sais pas, vous êtes rentré à la radio en 1974, ça fait un chiffre rond.
1er septembre 1974.
Donc bientôt, ça va faire un chiffre tout rond.
Mais je l'ai quitté pendant 10 ans, la radio. On a été fâchés pendant 10 ans. Ouais. Mais dans toutes les histoires d'amour, ouais, c'est comme ça.
Et si on commençait par le début, par quel hasard de la vie, par quelles envies et par quel chemin êtes-vous arrivé à la radio?
Par quel chemin je suis arrivé? En septembre, le 5 septembre 68, je me retrouvais dans une caserne à Montluçon. Et il y avait dans ma chambrée un monsieur qui s'appelle Yann Egan, que je ne connaissais pas à l'époque, qui était RTL. Et voilà, c'est lui qui m'a refilé le virus. Et quelques années plus tard, avec un autre ami à moi, Thomas Sertilange, on s'est retrouvés tous les trois à faire de la radio ensemble. Yann, lui, a continué sur Europe. Et Thomas et moi sommes entrés à l'Orient Coin. En septembre 1974.
Et comment vous faisiez pour rentrer à France Inter à l'époque?
Je ne sais pas, ça c'est... Faut demander, je n'ai pas fait exprès. Moi, je ne voulais pas ça. Moi, je voulais être comédien. Je croyais que j'allais casser la cabane, que j'avais beaucoup de talent. Il a fallu que je comprenne un jour que...
Et que la radio était un passage obligé, peut-être?
Non, pas un passage obligé. Avec mes potes, on a fait ça comme ça. Puis je me suis rendu compte que je me trompais peut-être de vocation. Et je me suis trouvé bien là et que j'ai vu que je pouvais m'exprimer même derrière une vitre.
Vous écoutiez souvent la radio, Gilles Davidas ?
Moi, je suis un enfant de Salut les copains. Ben oui. Philippe Aki, Franck Thénault, Europe 1, oui, bien sûr. Europe numéro 1 à l'époque, oui.
Les années yéyé. Donc c'est par la musique que vous êtes arrivé à la radio ?
Bien sûr, oui. Mais j'ai un peu baigné dans la musique aussi quand j'étais môme, oui.
Et comment vous avez fait ? Vous avez écrit à la radio ? Vous avez décroché votre téléphone pour rentrer ?
Non, pas du tout. Non. Mais si vous voulez que je vous raconte ma vie radiophonique, comme je voyais Yann travailler, tout ça, je voyais des trucs intéressants qui me plaisaient. J'avais envie de l'aider, de faire des trucs, d'écrire avec lui des jeux, puisqu'il inventait plein de jeux, plein de trucs, des machins. Et un jour, j'invente un jeu dans ma tête, hop, j'écris sur le papier et j'envoie au spécialiste des jeux à l'époque et qui est resté jusqu'à sa mort, à Jacques-Antoine. Et en fait, c'est Jacques-Antoine qui, le premier, m'a fait confiance, m'a ouvert sa porte. Et ce jeu que j'avais appelé La réponse en question et que Jacques-Antoine a appelé Ping-Pong. Et pourquoi Ping-Pong ? Il m'a répondu parce que ce n'est pas du Ping-Pong. Et après, on a fait un pilote, il nous emmenait avec Yann pour Yann présentait la maquette, il nous emmenait à RMC, boulevard Princesse Charlotte, à Télé Monte Carlo, à TMC plutôt, où il a, pour faire un pilote télé, tout ça. On a fait une maquette radio, ça ne s'est jamais vendu. Voilà. Mais au moins, j'ai découvert la radio. Et j'ai travaillé pour Déjeuner Chaud, pour les frères Roulant et Pierre Belmar à Europe, où je faisais des petits jeux tous les jours pour Déjeuner Chaud. Oui.
Et l'oreille en coin, comment l'aventure commence ?
Par Yann et Thomas Certilange. Mmh. Yann et Gann, tous les deux ont fait une émission sur les premiers pas sur la Lune, en juillet 1974. Et après, Gareto et Coudou, pour remplacer quelqu'un qui devait partir en vacances 4 semaines en septembre, ont demandé « faites-nous quelque chose, mais de musical ». Alors musical, je les avais initiés à la comédie musicale américaine, je les emmenais au cinéma tout le temps, et ciné-club et tout. Ils m'ont appelé pour écrire les émissions avec eux, voilà.
C'était à l'époque où on écrivait beaucoup, hein.
Ah ben, tout était écrit, évidemment, oui. Mais il faut continuer à écrire.
Ah. Oui. Vous êtes...
La radio, ça se pense, ça s'écrit, ça se dit. Tu ne peux pas rater une de ces étapes.
On va parler d'une autre émission, avant de revenir à l'oreille en coin, si par hasard, au Piano Bar.
Avec Daniel Mermet, oui. Et c'est Yann Parentoen qui nous avait trouvé le titre devant une machine à café.
Alors ça, c'est pour le titre. Mais comment naissait un concept d'émission ? C'était suite à des discussions ?
Non, c'est Daniel avait envie de retrouver son papa, qui était pianiste de bar. Et à travers toutes les personnalités que son papa a pu rencontrer au fil de sa vie, c'était la quête de Daniel vis-à-vis de son père. Donc de Miles Davis à Yvette Horner, on a rencontré tous ces gens-là qui nous ont parlé de Charlie et de leur rencontre avec Charlie.
Non, mais c'est très étrange comme concept. Hein. Et déjà, le casting, parlons du casting. Thierry Beccaro,
celui qui fait un
jeu de télé, non ?
Oui, bien sûr, c'est Thierry Beccaro, qui à l'époque était aussi régisseur la nuit avec nous pour payer ses cours d'art dramatique. Et après, il a été un petit peu animateur aussi sur... Mais il y avait à cette époque-là, j'ai eu par exemple Clémentine Sélarié au standard derrière moi, qui répondait au téléphone pour les auditeurs. C'était bien. Maintenant, tout est cloisonné. Je vais commencer à dire des bêtises. On ne peut plus.
Une émission qui réunit Thierry Beccaro, donc Daniel Mermet, celui qu'on ne présente plus et qu'on n'écoutera plus sur France Inter, et puis vous-même. Alors, on va écouter.
Thierry Beccaro présentait les après-midi, les points et les déliés de Jean Gareto. Donc, c'était lui qui lançait et désannonçait l'émission.
Ouais.
Il n'était pas dans l'émission.
Il était le speaker des après-midi.
Il était, oui, le présentateur des après-midi. Oui.
On va écouter justement une émission, si par hasard, au Piano Bar, avec un des plus grands musiciens américains.
Vous savez, j'ai très longtemps hésité. Et puis j'ai reculé, à quoi bon ? À quoi bon passer une petite annonce dans les journaux ? Daniel Mermet à la recherche de son père, Charlie, un musicien, un vagabond, un drôle d'oiseau. Où s'est-il posé ? Pour tout renseignement, écrire à France Inter, Daniel Mermet, Gilles Davidas. On ne sait jamais. Si par hasard, au Piano Bar.
Non, c'est pas papa, c'est pas Charlie qui chante comme ça. D'accord, Charles Mermet, mon musicien, mon aventurier de père, a fait beaucoup de choses dans sa vie. Mais jamais, jamais, il n'a chanté comme ça. Et personne n'a jamais chanté comme ça. Personne n'a jamais chanté comme Screaming Jay Hawkins. Regardez-le. Une lumière verte éclaire à peine un cercueil. Le cercueil s'ouvre. Voilà Jay qui sort dans un nuage de fumée, avec sa cape noire et dorée, avec ses chaînes, ses bagues, ses amulettes, et sa tête de mort au bout d'un serpent. Screaming Jay Hawkins. Le Dracula du rock and roll. Boil it down to a pound, get a spoon. Le rocker surréaliste. Take the jaws and the paws off a coon. Take your time, I ain't lying for good cooking. Cause the rest of this mess ain't good looking. Take the fleas from the knees of a demon. Tell your pals the gals will come screaming to the feast with the beast of the mouth. They make wine from the spine of their bulldogs. They dance and romance for 90 days. I tell you, it's a test for the best of who's stays.
Vous l'avez vu dans Les Enfants du Rock avec Gainsbourg. À 54 ans, Screaming Jay Hawkins qui fait son retour. Pour vous, c'est l'ancêtre du rock, le dernier survivant. Pour vous, c'est pas les enfants, c'est les petits-enfants du rock. Pour vous, voilà qui est Screaming Jay Hawkins. Mais pour moi, il est plus que ça, Screaming Jay Hawkins. C'est un copain de papa. C'est un pote à Charlie. Et c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui.
Daniel Mermet à la recherche de son père, et ça faisait l'idée de l'émission, le concept de l'émission. Si par hasard, au piano bar, Gilles Davidas.
Absolument, et puis un invité par jour, et puis on en a fait 280 à peu près comme ça.
Et tout le monde acceptait ce jeu, parce que les invités, ils devaient être quand même surpris de voir arriver quelqu'un qui va les interviewer autour de son père, ou en leur donnant un rôle.
Oui, ils avaient rencontré Charlie. Parlez-moi de mon père, qui résiste à ça? Je vais te raconter ton papa, oui, il n'y a pas de problème.
Et ça, est-ce qu'on peut dire que c'est une mission d'époque? Est-ce qu'à l'époque, j'imagine qu'on pouvait rencontrer des artistes sans trop dealer avec les maisons de disques, les managers, les agents?
Ça n'était pas toujours facile.
Ouais.
Ça n'était pas. On a voulu, par exemple, avoir Michel Jonas. Et on a eu des mois, puis un jour, Jonas a fait un disque, et là, son attaché de presse a dit d'accord. Et il était furieux, Jonas. Parce que lui, il était auditeur de l'émission, il avait très envie de la faire. Et quand il a appris qu'il ne pouvait pas parce qu'il n'avait rien à vendre, non, ça l'a rendu furieux. Ouais.
Ça se faisait en direct, cette émission?
Non. Attends, les invités, c'était du plateau, c'était monté, hyper monté. Le mixage pouvait se faire en direct. Je crois que celle-là, on l'a mixé en direct, si j'entends bien ce que j'entends. Mais c'était hyper travaillé, hyper écrit. C'était 10, 11 heures par jour de travail.
Ouais. En tout cas, c'était très original. Ça continue à faire son petit effet. On va écouter d'ailleurs un autre extrait de cette émission et on va se rendre compte qu'à travers ce dispositif de radio où ce concept, comme on disait à l'époque, eh ben les artistes disent plus de choses que si on parlait d'eux d'une manière directe ou promotionnelle.
Screaming Jay Hawkins, je l'ai rencontré il y a quelques temps. Il est toujours aussi beau avec ses 54 ans et ses pompes bicolores et son beau costard gris tourterelle. Et il a des bagues à tous les doigts et tous les doigts sur le piano. Alors je lui ai demandé, Jay, comment ça s'est passé? Comment vous avez rencontré Charlie?
Oh, Cleveland. Now there was a town.
C'était à Cleveland, dans la ville de Cleveland.
Lots of people hanging around nightclubs at night when the sun goes down.
Les gens cherchaient un club à la tombée de la nuit. Certains n'avaient pas d'autorisation de rentrer.
Could be as much as 75 cents or a dollar to get in.
C'était 75 cents ou un dollar. Mais tu pouvais prendre un verre ou deux ou trois ou cinq.
They had this one guy, Charlie.
Il y avait ce type Charlie.
I wanted that man's job so bad.
Et je voulais absolument le boulot de ce type. Il avait le meilleur club.
So I said to myself one day, Charlie.
Et je lui dis, Charlie.
Come on by the house, I'm gonna fix you a nice meal.
Viens à la maison, je t'invite, une bonne bouffe.
A root doctor, a witch doctor. Charlie gets sick, couldn't go to work that night, so I was.
Et Charlie a été malade, infoutu de bosser.
And the guy said, Hey Jay, we need the piano.
Et le type de la boîte m'a dit, Hey Jay, on cherche un type pour le piano.
You go play.
Viens jouer. Jusqu'à ce que Charlie revienne. Et je me disais en moi-même, tu parles, Charlie est malade, je crains rien.
He was wrong because the guy was nice, he was sincere, he was a gentleman, he was polite.
C'était pas sympa de ma part parce que ce type était gentil, poli et tout, c'était un gentleman et tout le monde l'aimait.
So, I'm sorry he got sick. He still don't know.
Je suis désolé qu'il ait été malade. Mais je lui ai jamais raconté cette histoire.
So, for one night, it didn't work.
Et j'espère qu'il est toujours mon copain. Mais Screamin' Jay Hawkins et papa devaient se revoir plus tard. Et dans quelles circonstances, vous allez voir.
Voilà, c'était juste un extrait. L'atelier du son avec Gilles Davidas. Ça vous fait quoi de réécouter cette série?
C'est émouvant, c'est une autre vie.
Une autre vie, Gilles Davidas. Ouais. Vous allez nous quitter après une ultime grille d'été, ce qui fait 40 ans tout rend de bon et loyaux service, avec des grands moments, des grands changements aussi, des ruptures, des retrouvailles. Mais c'est vous, Gilles Davidas, qui avez pris la décision de quitter la radio, contrairement à votre ancien partenaire Daniel Mermet, poussé à la sortie par la nouvelle direction de France Inter pour laisser la place aux jeunes. Vous avez bien sûr un commentaire à faire.
Oui, d'abord, je n'ai pas pris la décision de quitter la radio. Je ne compte pas quitter la radio. Je prends ma retraite sur le métier de chargé de réalisation.
Ouais.
Mais je ne dis pas au revoir à la radio. Je ne vais pas vous quitter comme ça. Je n'ai pas envie de mourir tout de suite.
Et pour Daniel Mermet?
Et pour Daniel?
Ouais.
Et que dire? J'ai appris la nouvelle comme vous il y a 3 jours. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si j'aimerais qu'il reste qu'à la radio. Je ne pense pas que ce soit en virant les vieux qu'on rajeunisse l'auditoire. Moi, j'ai fait une émission avec Marie Guérin sur la création de la Maison de la Radio en 1963. Et déjà, le ministre de tutelle disait qu'il fallait rajeunir l'auditoire de l'ORTF. Quand je suis arrivé en 1974, France Inter était une radio de vieux. Quand j'ai été à la direction de France Inter pendant quelques années, au début des années 80, il fallait déjà continuer à rajeunir l'auditoire. Et quand j'ai quitté la maison en 93, France Inter était toujours une maison de vieux. Et quand je suis revenu, France Inter était encore une radio de vieux. L'auditoire.
Mais quand vous êtes arrivé à la radio en 1974, Gilles Davidas, est-ce qu'il y avait un conflit de génération, comme on ne le dit plus aujourd'hui, avec les anciens qui étaient là bien avant vous?
Pas du tout.
Non?
Ah bah non, pas du tout. Non, au contraire. Non, bah les anciens, ils étaient porteurs. J'ai eu la chance de travailler avec des gens qui transmettaient. Et c'est bien de virer les vieux, parce qu'il y a un moment, il faut qu'ils se reposent. Et je n'ai rien contre la place aux jeunes, évidemment, place aux jeunes. Mais virer les vieux sans les remplacer,
Généralement, ils sont remplacés.
Non, mais l'esprit, je parle de l'esprit, de la pertinence. Mais bon, il faut qu'ils soient punk, et moi, je trouve ça très bien, oui.
Alors vite, faisons tout de suite une place aux jeunes. Voici Philippe Baudouin, jeune réalisateur, radio, l'invité de notre invité qui s'installe avec nous. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vient de dire Gilles Davidas?
Non, c'est très touchant. En fait, j'aime beaucoup l'idée de transmission. J'ai l'impression que depuis les quelques petites années que je suis ici, où j'essaie de poursuivre ce travail de chargé de réalisation, bien il y a tout un savoir-faire en fait qui m'est transmis quotidiennement. Et puis cet esprit, hein, je pense que l'esprit est toujours là en tout cas.
Et vous-même, comment êtes-vous arrivé à la radio? Par quel hasard de la vie? Par quelles envies? Par quel chemin détourné? Ou pas d'ailleurs? Je pose la même question qu'à Gilles Davidas.
En fait, j'ai laissé tomber cette idée de devenir prof de philo. J'ai commencé à faire de la radio au début des années 2000, ça fait déjà un bout de temps, dans une radio associative, Radio Campus, à Avignon, là où j'étais à l'époque, parallèlement à mes études de philo, et bon, je me dirigeais tranquillement vers la préparation des concours philo, et puis très très vite, je me suis dit non, en fait, cette pratique autodidacte comme ça, de partir, enregistrer, de faire des chroniques, de monter, de travailler, de concevoir la programmation musicale d'une émission, etc. Mine de rien, c'était quelque chose qui me passionnait. Je suis parti au Japon, comme ça, pendant 3 semaines, le temps de réfléchir. Et puis, je suis revenu. Et puis, j'ai fait un petit stage ici de quelques semaines où j'ai rencontré des collègues de Gilles avec qui j'ai passé un peu de temps. Et là, il n'y avait plus du tout de doute sur, ouais, sur cette vocation, on peut le dire. Ouais.
Est-ce que vous étiez un auditeur ou vous avez été nourri à la radio quand vous étiez plus jeune ?
Oui, en fait, moi, je fais partie de cette génération d'adolescents qui écoutaient la nuit sous la couette Doc Eddie Fool.
Ouais.
Donc, toute la période Radio Libre, Fun Radio, Skyrock, etc. Et puis, voilà, au début des années 2000, je suis revenu un petit peu aux origines de la création radiophonique en commençant à écouter des choses comme les travaux de Pierre Schaeffer et puis les travaux de Yann Parent-Ohen, et vraiment en essayant de m'intéresser au son, au travail de montage, et justement à tout ce métissage qu'on essaie de faire dans le montage, en essayant de construire un discours, de faire le portrait de quelqu'un, et de s'amuser avec, comme ça, avec l'invisible finalement, avec le son, avec l'invisible, avec la musique, avec les bruits, avec les silences aussi. Et c'est aussi ça la radio, donc c'est une étrange association chez moi, dans mon parcours d'auditeur, de radio libre comme ça, avec des émissions. À l'époque, assez rentre-dedans, ce que j'aimais bien, en fait, dans le rapport assez physique à la radio. Et puis, avec ce goût pour la création radio, tout simplement.
Voilà, la transmission se fait, Gilles Davidas. Quand vous entendez Mais Philippe Beauvoin.
Oui, bien sûr. Bah oui. Mais la bande de Carbone 14 a débuté dans une émission que j'avais mise en place quand j'étais à la direction de France Inter, qui s'appelait Les Bleus de la Nuit. Mmh. Et ils ont commencé dans Les Bleus de la Nuit. Ils n'allaient pas jusque là où ils sont allés après, quand ils ont fait leur radio à eux, mais ils ont fait leur classe là, oui.
Philippe Beauvin, juste une idée. Citez-moi 5 émissions de radio qui ont beaucoup compté pour vous. Alors, toute radio, fréquence, genre et format confondus, bien sûr.
Pêle-mêle, les nuits magnétiques, les passagers de la nuit.
France Culture.
Mange un palace.
France Inter.
Alors, c'est pas une émission, mais c'est de la radio, Arte Radio.
Mm-hmm. Vous avez travaillé d'ailleurs pour Arte Radio.
Oui. J'ai produit 4 ou 5 reportages ou portraits radiophoniques. Donc, c'est quelque chose qui compte également beaucoup pour moi. Et puis, tiens, le pudding sur Nova.
Sur Nova. Gilles Davidas, avant de vous poser presque la même question, je vais avoir votre avis sur quelques émissions radio qui font partie aujourd'hui, on peut le dire, je crois, du patrimoine. Les Papous.
Vous voulez mon avis sur Les Papous? Mm-hmm. Bah, je suis auditeur des Papous, j'adore ça.
L'Esprit Public.
Absolument.
L'Esprit Public.
L'Esprit Public. Je ne sais pas ce que c'est.
Le jeu des 1000 francs.
Le jeu des 1000 francs, là, ce que j'ai vécu, parce que j'ai suivi le jeu des 1000 francs pendant une semaine avec Lucien Jeunesse, et c'est formidable.
Qu'est-ce qui était formidable ?
Formidable, c'est l'ambiance de ça, c'est le public qui sent, c'est vraiment ce qu'on fait de mieux. Hein.
Radioscopie,
ça, oui, alors, oui, oui, oui. Ouais. Mais allons-y. Quand est-ce que refaites-moi radioscopie? Ouais, ça, oui, ouais, formidable.
L'atelier du son de Thomas Baumgartner.
L'atelier du son, bah, j'adore travailler avec Thomas. C'est une très bonne émission. Ouais, non, c'est vraiment bien ça.
Un autre jour est possible, je sais pas.
Un autre jour, ça me dit quelque chose.
Vous êtes gentil, mais je crois que
c'est sympa de se réveiller avec ça. Oui, oui.
L'étoffic
est bien.
Là-bas, si j'y suis.
Eh ben, faut y rester. Il faut que ça continue. Il faut que cet esprit-là continue de là-bas, si j'y suis. Absolument.
Vous savez que vous pouvez être critique, hein ?
Mais bien sûr, je suis critique.
Le masque et la plume.
J'ai toujours été critique. Ouais.
Le masque et la plume.
Le masque et la plume, bah oui, ça fait partie aussi. Alors ça, c'est mes souvenirs de môme. Ma mère écoutait ça, donc effectivement. Et puis après, j'ai travaillé un petit peu avec eux, mais plus récemment. Et c'est très agréable, oui, bien sûr.
Réplique d'Alain Finkielkraut.
Ah ben ça, voilà, ça c'est des moments de radio, mais il faut que ça continue d'exister. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il pense, mais il faut que ça existe, effectivement, oui.
Le tribunal des flagrants délits.
Eh ben alors, c'est fait partie de ce qui me manque le plus en radio, évidemment, bien sûr.
Une mauvaise émission pour vous, c'est quoi?
C'est une émission qui oublie qu'il y a un auditeur de l'autre côté du transistor.
On va écouter un extrait d'une émission que vous avez réalisée pour L'Oreille en coin, Gainsbourg en déambulation à Paris en 1976, un retour sur les lieux de son enfance, son adolescence et sa jeunesse.
Notre guide aujourd'hui sera Serge Gainsbourg. Nous lui avons bien sûr téléphoné 3 jours avant notre rendez-vous, afin que sa barbe ne soit ni trop rasée, ni pas assez. Une sorte de pèlerinage pour un homme qui préfère oublier. Une promenade que Serge n'avait jamais pensé ou n'avait jamais voulu refaire.
Je suis né un peu plus vers Belleville, par là. Enfin, disons que si on fait un flashback de... Je suis pas très fort en calcul. 1932, voilà, j'étais là. 1932, 11 bis rue Chaptal, 3e étage. Souvenir. Et en face, alors j'ai un jour de 32. J'ai traversé la rue en pleurant, c'est l'école maternelle. Ah, attendez, je vais vous montrer quelque chose. On fait quelques pas. Alors ici, coiffeur. Coiffeur, alors là, j'avais des problèmes. J'avais des problèmes parce qu'il voulait à tout prix me filer des lotions après. Moi, j'avais juste de quoi payer la coupe. Oreille bien dégagée, ça. Alors j'avais des complexes. Et toujours près du 11 bis, c'était à vendre là. C'était un marchand de couleurs et c'est toujours. Et c'est fermé là. Alors, j'étais fasciné parce qu'il y avait des billes à vendre. En face, au 14, il y avait le Hot Club de France, mais ça date déjà des années 50. Si on retourne aux années 30, attendez, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, j'avais 7 ans, et alors voici ce café là, qui fait le coin là, avec la rue Enner, et Fréhel, habité à deux pas, l'impasse Chaptal, c'était le... il y avait le Grand Guignol. Fréhel se baladait là, dans la rue, avec un péquinois sous chaque bras, peignoir, toujours en peignoir, et un gigolo à une distance réglementaire, c'est-à-dire 5 mètres derrière, comme dans l'armée. Et un jour, je suis revenu de la rue, voilà, à droite, c'est la rue Pigalle, qui descend à mon école communale, rue Blanche. Et j'avais la médaille, comment on appelle ça, la médaille d'honneur. La croix d'honneur.
Ah oui.
La croix d'honneur sur mon tablier. Fréhel m'a arrêté ici, où je suis. Moi, elle était connue à l'époque. Oui, c'était sa grande période de beuverie et de disques. 78 tours. Et elle m'a passé la main dans les cheveux, elle m'a dit tu es un bon petit garçon, elle ne me connaissait pas. Bon petit garçon, tu es sage à l'école, je vois que tu as la croix d'honneur. Alors je vais te payer une. Et je me souviens très bien. Elle m'a payé. Il y avait des petites tables rondes ici à la terrasse. Elle m'a payé un diabolo grenadine et une tartelette aux cerises. Ça date des années. 37-38.
Et l'émission, elle date de 1976. Gainsbourg, déambulation à Paris, retour sur les lieux de son enfance, de son adolescence, de sa jeunesse, dès l'oreille en coin que vous avez réalisé, Gilles Davidas. Alors, comment on prépare ce genre d'émission? On appelle Gainsbourg 3 jours avant, on le persuade de jouer le jeu, ou au contraire, on lui dit le minimum du dispositif prévu?
D'abord, avec Thomas Sertilange, dont vous avez entendu la voix au début de l'enregistrement, là. On faisait ça toutes les semaines avec un invité différent. On avait appelé ça « Si Paris nous était compté » et on demandait à chaque personnalité de nous raconter sa rue, son quartier, d'enfance ou pas d'ailleurs. On l'a fait avec Jean-Louis Borry, avec plein de gens. Et bah oui, on les appelait, mais l'oreille en coin, on appelle. Ah, c'est l'oreille en coin. Ah bah oui, c'est oui d'abord. Et puis voilà, et puis il n'y a pas de problème. C'est facile. Et donc on a fait ça... en 76, et quelques semaines après, c'est FR3 qui avait dû écouter l'émission qui a proposé à Gainsbourg de le faire. Donc, il s'est prêté volontiers à la chose, simplement. Et ben, ils étaient emmerdés par l'image. Donc, le reportage, c'est qu'on voit les pieds de Gainsbourg marcher sur le trottoir. Et puis voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez faire ? L'image...
Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'était la belle époque où c'était la télé qui essayait de faire de la radio et pas le contraire ?
Non, c'est la télé qui essayait de faire de la télé avec une idée radiophonique, mais ils ne pouvaient pas, ils étaient coincés par l'image. La force de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. C'est Orson Welles, je crois, qui a dit qu'il y a plus grand que l'écran de cinéma, la radio. José Arthur a dit la force de la radio, c'est qu'il n'y a pas d'image. Et moi, je dis qu'on a la chance de pouvoir créer autant d'images qu'il y a d'auditeurs.
Alors, parlons justement de la fabrication d'une émission radio comme Le Rayon Coin. Parce qu'avec Gainsbourg, on est dans Paris, on reconnaît les lieux, alors que c'était en 76. On sent quand il passe d'une rue à l'autre. Alors comment on prépare ? Est-ce qu'on va en repérage avant ? Non. On fait plusieurs prises ? Ou alors on improvise et on s'adapte aux situations et aux aléas de la vie ?
Non, avec Thomas, on avait notre Nagra de 14 kilos. Non, il faisait 8 celui-là, il n'était pas stéréo. Notre micro, nos bandes qu'il faut changer tous les quarts d'heure. Et puis on y va, on va chercher Serge Gainsbourg chez lui. Au Dauphine, et puis on l'emmène en voiture dans le quartier de son enfance, et puis on le suit. Il nous sert de guide, et on enregistre, on tourne, jusqu'à la fin de l'enregistrement que vous entendrez peut-être un jour, où il se revoit avec son étoile jaune dans le square de la Trinité, et puis il veut oublier.
Et après, il y a beaucoup de travail de post-production.
Parce que là, c'est bien réalisé. Montage. Ah oui, là, il y a du montage. Oui,
du mixage.
On a la chance de. Moi, j'ai découvert la radio avec un technicien qui s'appelle Yann Parentoen. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça crée des vocations aussi, ça. C'est lui qui en fait, il n'a pas fait exprès, mais si je suis là aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce ou à cause de lui. Oui.
Philippe Baudouin.
Non, mais en fait, ce qu'il y a d'assez touchant, c'est justement, on revit comme ça une histoire à travers une voix qui a évolué. Et là, il me semble qu'on est dans cette période Gainsbourg-Gainsbar, où dans l'élocution, dans la diction, on commence à être peut-être à venir dans une dimension un peu poétique et en même temps assez confuse comme ça. Ouais, ouais, c'est assez fascinant ce
parcours.
Et pourtant,
je ne l'ai jamais entendu aussi sincère. Parlant de lui-même.
Ah, c'est ça qui est assez touchant.
Il n'y a pas de posture. Est-ce que c'est parce que c'est la radio ? Il n'y a pas de télé, on ne va pas jouer avec l'image ? Ou est-ce que c'était le lien qu'avait réussi à créer une émission de référence comme L'Oreille en coin qui mettait un peu à l'aise de...
Je pense que d'abord, il nous faisait confiance. Mm-hmm. Puis à partir de là, on l'a suivi. Et puis après, avec une paire de ciseaux, on a taillé dans la bande magnétique. Et puis voilà.
Autre témoignage, celui de Claude Giovannitti, qui est rentré à la radio la même année que vous, Gilles Dalidas, on l'écoute dans un extrait d'un atelier que vous avez réalisé pour France Culture l'année dernière, le geste magnétique.
J'ai commencé en 1974, et j'ai dû passer au numérique en 2000. Ce qui était difficile dans le contexte du passage de l'analogique au numérique, c'est qu'on avait... le sentiment qui s'est réalisé, qu'on ne toucherait plus la bande magnétique, qu'on passait vraiment d'un monde à l'autre.
C'était quoi le monde magnétique ?
De la bande magnétique, un magnéto, où il y avait 3 touches, enfin un peu plus, mais stop, rewind et play. Un ciseau de montage, qui n'était d'ailleurs pas un ciseau de montage très sophistiqué, c'était des ciseaux de coiffeur.
Alors, hop. Voilà, et mon plateau... Ici, toujours.
Vous voyez bien que j'ai tort.
Mais le règlement exige que je
vous... Quel règlement vous autorise-t-il à réveiller les voyageurs ?
Mais parfaitement.
Eh bien, il est mal fait.
Voilà, donc on va refaire un petit collant ici encore. Elle n'est pas commode, hein, celle-là.
C'est la bombe qui te guide dans ces cas-là, c'est elle la maîtresse.
Bah là, faut. Mais en même temps, il faut la dompter quand même un petit peu parce que sinon.
Vous écoutez France Culture. Ah bah ça va, on est sur Culture. C'est OK, on sait où on est.
Avec Yann Egan. Et les Forbans.
Saint-Denis, Studio Carrère, répétition.
Je sens, Gilles Davidas, que cette émission que vous avez réalisée autour de la bande magnétique vous tenait à cœur.
Oui, et c'est Marie Guérin qui a eu cette idée-là, qui a produit, présenté, animé merveilleusement cette émission. Merveilleusement, qu'est-ce que je raconte comme truc ? Elle est super, cette nana, mais j'emploie des mots que j'aime pas entendre. Hein. C'est drôle, hein. Et oui, on a fait ça avec Alain Joubert qui nous suivait avec un magnéto normal d'aujourd'hui, numérique. Et elle, Marie, toute petite, toute frêle, avec un agra de 14 kilos. Alors lui, il pesait vraiment 14 kilos et sa bande magnétique. Elle s'en servait pour la première fois. Et au cours de l'enregistrement, on entend que je lui apprends à faire le montage, puisqu'on a vraiment réalisé ça sur de la bande magnétique. Et le produit final, c'est une bande magnétique. J'aurais aimé la diffuser sur bande, mais bon, c'était un peu plus compliqué. Donc la diffusion, elle s'est faite en numérique. On a recopié la bande magnétique pour pouvoir la faire. Mais c'est une belle aventure. Ouais.
Et vous, vous faites une véritable différence sentimentale entre la bande magnétique et le numérique ou
Numérique nous a libérés.
Ouais.
Non, mais ce que j'aime dans la bande magnétique, c'est comme certains amateurs de disques vinyles, c'est la chaleur qu'il y a et qu'on n'a plus en numérique.
C'est le grain. Hein.
Ah, oui, vous captez ça, Philippe Baudouin ? Différent.
Oui, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, comme ça. C'est une sorte de matérialité un peu organique. Mmh, ce grain, comme ça, ces accros qu'on peut entendre quand on écoute un vinyle, on les entend aussi quand on écoute une bande magnétique et on remonte le temps, quelque part.
Est-ce que le métier a évolué aussi avec la société ? C'est-à-dire, là, on parlait de l'évolution des technologies, mais il y a aussi la société qui a évolué, le monde de consommation. Gilles Davidas, qu'est-ce qui a changé profondément, fondamentalement, dans votre métier de concevoir de la radio ?
À part la manière de le faire, évidemment, ça s'est simplifié et ça nous a ouvert des horizons. Mais moi, je n'ai pas changé. J'ai évolué, j'ai grandi. Quand j'ai réécouté le Gainsbourg, au moment où il est mort, on a rediffusé ce qu'on a entendu tout à l'heure. J'ai été abasourdi par... J'avais rien compris au truc encore. En 76, j'avais à peine deux ans de maison. Et j'ai découvert... Mais j'ai fait des trucs insensés. On avait truffé le truc d'extraits de chansons et tout ça. J'avais pas compris. Et j'ai appris mon métier comme ça. Et maintenant, j'ai continué d'évoluer. Oui, rien n'a changé, si ce n'est la technologie. Effectivement, ça nous simplifie le travail.
Vous voulez dire que vous êtes prêt à faire une même émission qu'à l'époque de l'Oreille en coin, c'est-à-dire le même principe, adapter le même principe pour aujourd'hui ?
Bien sûr, avec mon expérience en plus, mais peut-être que j'ai mal évolué, j'en sais rien. Mais effectivement, je pourrais refaire Gainsbourg avec quelqu'un d'autre, évidemment. Oui, puis ça s'est fait depuis par d'autres et aussi très bien.
Philippe Baudouin, est-ce que vous avez senti qu'il y a une évolution dans l'art de faire la radio ou d'écouter la radio aujourd'hui ?
Ce qui est sûr, c'est que quand je suis arrivé, il y a 3 ans de ça, j'ai tout de suite été formé aux outils numériques. À vrai dire, la bande magnétique, moi, je la connais uniquement lorsque je vais chercher des archives à l'INA. C'est le moment exceptionnel et unique, d'ailleurs, au cours duquel où je les manipule.
Ouais. Mais là, on parle du support. Mais est-ce que le fond a évolué avec le support ou pas tant que ça ?
Dans la rapidité, peut-être. Peut-être dans la boulimie aussi, on peut être victime d'une boulimie comme ça, de sons, de musique, de bruit, d'ambiance, d'archives, parce qu'on a accès maintenant à des banques de données. du coup, qui nous ouvre mille possibilités, mille potentialités de création, justement. Je ne suis pas persuadé que c'est grâce à cela qu'on va pouvoir sortir un travail avec une certaine teneur artistique. Par contre, tout va se faire dans le tissage, tout va se faire dans le fait d'éviter la simple illustration et de garder justement ce que disait Gilles tout à l'heure, cet auditeur qui est de l'autre côté, il ne faut jamais oublier. Donc garder ce rythme et garder ce qui fait peut-être aussi l'amour qu'on a, la passion qu'on a pour la radio, quelque chose de très personnel qu'on va à chaque fois, pour chaque projet, alors c'est loin d'être facile, mais essayer d'imprégner comme ça dans le travail qu'on va être amené à faire.
Comment on imagine ces auditeurs quand on fait de la
D'abord,
radio?
D'abord, on imagine son auditeur, il n'y en a qu'un. La radio, elle s'écoute en solitaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais maintenant, chacun a son truc partout. La télé aussi commence à se regarder en solitaire. Mais la radio s'écoute en solitaire. Donc, on travaille pour celui ou celle qui nous écoute. Oui. Et on le cible.
Alors, Philippe Baudouin, vous qui découvrez la radio à une époque, du tout image, on peut le dire, on nous demande de plus en plus de nous montrer, on filme des interviews pour les usagers de la toile, on multiplie nos apparitions au public. Quel sens peut avoir le son sans image aujourd'hui pour vous?
Le son sans image, justement, il y a quelque chose à, me semble-t-il, à réinventer. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'aperçois d'une chose, c'est que justement, le grain, tout ce qui fait l'aspect organique du son revient. C'est-à-dire que dans les années 70, les années 80, les années 90, n'en parlons pas, il y a eu toute une obsession pour le synthétique, pour le numérique, pour l'électronique. Et maintenant, ce dont je m'aperçois, c'est que même si on utilise des outils numériques, on revient à ces formes-là, c'est-à-dire ce qu'on appelle le field recording, les paysages sonores, les ambiances, le son du réel revient. Et c'est, me semble-t-il, en prêtant attention à ce réel-là, en le réincorporant au travail du son, de la radio, en l'occurrence, que je pense qu'il y a quelque chose à faire pour le grain, pour quelque chose qui n'est pas parfait, quelque chose qui garde une certaine fragilité dans la radio. Moi, c'est ce que j'affectionne particulièrement et c'est ce dont j'ai l'impression qui revient en force en ce moment, ici à Radio France, mais dans d'autres projets, d'autres travaux. Je pense à des gens comme Collectif Oui Dire, par exemple, qui font tout un travail de documentaire de création sous la forme de disques et d'installations sonores, par exemple. C'est pas les seuls, il y a le réseau Radio Campus aussi, d'autres radios européennes qui travaillent de cette manière-là. On se réintéresse à nouveau pour le réel, pour l'organique, pour le grain, pour l'inexact, quelque part, pour le parasite, le grésillement, tout ce qui fait le charme de l'analogique.
Oui, tout ce contre quoi on luttait quand on était en analogique, justement. Mais mais c'est bien, c'est bien.
C'est-à-dire que la radio, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi un univers, une image qu'on propose à l'auditeur de se créer.
On donne des clés, quand on fait bien notre boulot, on donne des clés à l'auditeur pour qu'il se fabrique ses images. Oui, absolument. Oui. Ouais. La télé, elle vous donne une image. Nous, on a autant d'images que d'auditeurs. Vous vous rendez compte la force qu'on a.
Et puis, en tant que chargé de réalisation, on est aussi les premiers auditeurs d'une émission. C'est nous qui, quelque part, sommes les garants, en fait. Fonctionnement d'une émission comme la vôtre, Toufik.
Oui, d'abord, ouais, et puis de toute façon, on a le final cut. Hein. C'est nous qu'on décide.
Alors, tu commences à faire un son. Tu ouvres.
Anne Brunel, bonsoir.
Bonsoir Toufik, merci de me recevoir.
Vous êtes chargée des programmes Nouveaux Médias Radio France et responsable du site Nouveau Son. C'est quoi ce site?
Enfin, d'abord, j'en suis pas l'unique responsable. On est plusieurs chargés de programmes à accompagner des projets pour ce site Nouveau Son. Disons que j'en suis un peu à l'origine il y a un an et demi. Ce site Nouveau Son, c'est une plateforme de diffusion finalement qui est uniquement consacrée à la diffusion de productions sonores en son spatialisé, c'est-à-dire du son immersif à l'écoute au casque en binaural ou bien de l'écoute sur un dispositif d'enceinte 5.1 qu'on appelle traditionnellement le home cinéma en bon français.
Ouais.
En gros, c'est du son 3D si on veut essayer de résumer un peu les choses, c'est-à-dire qu'il va donner à celui qui écoute la sensation d'être vraiment au milieu de la scène sonore, au milieu d'une scène en relief, sur le plan sonore uniquement, parce que sur ce site, on diffuse certes aussi des œuvres en vidéo, mais la vidéo n'est pas forcément 3D, loin de là. Souvent, c'est une image d'accompagnement, notamment dans les œuvres musicales. Pas mal de concerts qui sont diffusés, concerts des formations de Radio France ou d'autres concerts qui sont mixés en 5.1, mais dont l'image, elle, n'est pas très immersive. Il se trouve qu'on a les droits vidéo pour, donc c'est pas plus mal aussi de proposer le film avec le son 5.1, mais il est vrai qu'on pourrait imaginer aussi une forme vidéo tout à fait différente avec une caméra au centre de l'orchestre, puisqu'a priori...
voilà, au
on va en rester au son.
Et vous avez ouvert donc la possibilité aux jeunes créateurs de pouvoir proposer leurs travaux à travers un concours qui s'installe maintenant.
Oui, le concours en est à sa deuxième année. C'est des propositions sous contrainte, ce concours. En réalité, l'objectif du concours, c'est de mesurer l'étendue des talents cachés au fond, essayer de repérer un certain nombre de futurs producteurs ou de futurs auteurs qui pourraient par la suite devenir des porteurs de projets. Le concours, il est sous contrainte avec une palette sonore qui est la même pour tout le monde pour qu'il puisse y avoir un principe d'équité.
On sort nos casques. Et alors, c'était quoi le principe pour cette année pour...
Le principe pour cette année, c'est un certain nombre de petits extraits sonores, en gros des samples, qui sont tous issus des différentes chaînes de Radio France, soit diffusés, soit des chutes, des scories d'antennes, des choses qu'on n'a pas conservées forcément au montage, mais qu'on a tous conservées sur nos disques durs, parce que ce serait trop dommage de jeter tout ça. Et puis aussi des balances, parce qu'on n'est pas autorisé à reprendre des extraits musicaux. On n'a pas les droits dessus, donc on a des extraits de balances de musique, voilà. Toutes sortes de choses qui sont en accord avec la couleur de chacune de nos antennes. Il y en avait entre 90 à peu près, enfin entre 90 et 100 extraits sonores qui allaient de la microseconde jusqu'à la minute.
On va écouter à partir de là, prix Anne Bonnel, si vous voulez bien. Le prix France Culture, le prix Move, et puis le Grand Prix Nouveau Son. Donc sortez vos casques. On écoute la création qui a obtenu le prix France Culture. Une création de Tanguy Blanc qui a donc obtenu le prix Nouveau Son Culture. Gilles Davidas, Philippe Baudouin, s'il fallait trouver un titre à cette création, on va voir s'il est éloigné du titre de l'auteur.
Gilles, à toi l'honneur.
Mais mon petit Philippe, place aux jeunes.
Oula, j'en serais bien incapable, hein, d'autant plus que je viens de le découvrir. Donc,
oui, je sais pas.
C'est toujours compliqué de trouver un titre, hein, pour un projet, une émission.
Ouais, je vais faire un peu vieux con, mais j'ai fait partie du jury une fois avec Jean Thévenot pour Les Chasseurs de Sons. Et là, je retrouve un climat un petit peu... je crois que Robert Arnault aurait aimé ça aussi.
En fait, voilà. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait une contrainte thématique aussi cette année. La contrainte de n'utiliser que les sons proposés dans la palette, un ou plusieurs, voire tous. Rien, mais rien. Là, ça tourne à la bouillie en général. Et une contrainte thématique couleur Brésil. Et donc là, on a surtout des sons issus de la forêt amazonienne, en réalité, ça, qui tendent vers la fin de cette forêt, parce qu'on entend aussi les coups de hache, voire de tronçonneuse et de camion. Ça s'appelle Naissance d'une tragédie. Et c'est Tanguy Clair, hein, pas Tanguy Blanc. Il s'appelle Tanguy Clair, le lauréat de France Culture.
Merci beaucoup. On passe maintenant au lauréat du MOOV, le prix Nouveau Son, le MOOV.
Enfia essa esmola no cu.
Mais alors que je vous parle, il y a des filles qui s'approchent les premières.
Gamba, en respect à la nuit, 2 minutes de silence.
Voilà, une création de Sébastien Girard. Un titre, Gilles Davidas, ou cette création?
Pourquoi ça tombe toujours sur moi?
Bon, parce que vous êtes l'invité principal. Hein.
Non, mais je ne vais pas lui dire. J'ai pas de titre. J'ai beaucoup aimé en tous les cas.
Philippe Audouin.
Moi, je dirais Mondo Amazonia, ça me fait penser un peu à ces vrais faux documentaires assez voyeuristes des années fin 60, années 70. Voilà, on mélangeait comme ça des sortes d'images de tribus un peu étranges avec une voix off qui décrivait la scène qu'on nous donnait à voir justement.
Syncope, voilà le titre trouvé par Sébastien Girard. Alors qu'est-ce que vous aimez justement dans ces créations, Gilles Davidas? Je me suis posé la question, est-ce que vous allez aimer ce genre de son justement?
Bien sûr, j'aime ça. Moi, j'aime les gens qui sont passionnés par le boulot qu'ils font. Ça ne me parle pas obligatoirement. Mais je peux en reconnaître la qualité et trouver ça bien. Ils sont passionnés, ces gens-là. Ils passent des heures à mixer des trucs. On ne fait pas ça par hasard. Et les gens passionnés sont des gens qui m'intéressent et je respecte leur travail.
Et le Grand Prix de cette année, bon, je vais laisser le soin à Anne Brunel de l'annoncer. Hein.
Alors, le Grand Prix récompense une œuvre qui a été, dès le départ, mixée en son spatialisé. Hein. Ouais. C'est la particularité. Le Grand Prix Nouveau Son, il y a beaucoup moins de participants dans cette catégorie parce qu'on s'adresse à des gens qui sont peut-être un petit peu plus équipés au plan des outils. Et on remarque quand même que cette année, beaucoup de participants en fait, font du son leur métier. Il y avait pas mal de designers sonores dans les lauréats. Et c'est le cas de Louis Bouloche, qui donc a fait cette composition qui s'intitule...
Passé au Brésil.
Voilà,
allez, on écoute. Brésil.
Silêncio.
Quoi, c'est déjà terminé? En tout cas, ça fait tout bizarre de faire la radio le soir. J'aime beaucoup. Dans un instant, pour terminer la journée chamboule tout sur France Culture et la saison, un jour au lendemain très particulier qui va très probablement faire date dans l'histoire de la radio. Je ne peux pas vous en dire plus, hein. J'en ai pas le droit. Bon, voilà, c'est fini. Et en plus, on a réussi le pari incroyable de faire une heure de radio sans faire la moindre allusion au foot et à la Coupe du Monde. Enfin, presque.
Ça y est, c'est fait.
Bravo. Bel été à vous. Et qu'allez-vous faire cet été, cher Gilles Davidas?
C'est mon dernier été radiophonique, donc je vais essayer de travailler au maximum. Et puis si je trouve rien qui m'intéresse vraiment, je prendrai quelques vacances.
Allez, je vous laisse le soin de faire le générique de fin.
Je vous avais dit que je dirais des conneries.
C'est pas des conneries. Allez.
Je fais le générique là maintenant tout de suite.
Ouais, ça y est, c'est bon.
C'était l'atelier du son de Thomas Baumgartner, produit dans le cadre de la journée spéciale Chamboultou par Toufik Hakem, réalisé par Michel-Ange Vinti. Avec à la technique les 5000 doigts du docteur Jean Frédérics, il comprendra pourquoi, une coordination de Inès de Bruyne. Avec Gilles Davidas, Philippe Baudouin, Anne Brunel et les voix de Marie Guérin, Claudio Vanetti, Yann Egan, Thomas Sertilange, Jean-Pierre Chabrol, Serge Gainsbourg, Thierry Beccaro, Daniel Mermet et Screaming Jay Hawkins.
Une émission que vous pouvez retrouver sur...
sur franceculture.fr.
Voilà, et c'est déjà fini.
Merci Toufik Hakem pour ce dernier atelier du son de la saison. Habituellement, je dis merci Thomas Baumgartner, mais aujourd'hui, France Culture a joué à inverser ses producteurs et à mélanger les cases et les horaires pour fêter la fin de l'année. N'oubliez pas que les ateliers de la nuit sont à réécouter et à podcaster tout l'été sur le site internet de France Culture. Les ateliers de la nuit, c'est l'atelier intérieur du lundi, l'atelier fiction du mardi, l'atelier création des mercredis et jeudis et l'atelier du son du vendredi. C'est Blandine Masson, Irène Omelianenko, Thomas Baumgartner, Aurélie Charon à la production, Inès De Bruyne, Alice Ramon à la coordination. Nous vous souhaitons un bel été en attendant de se retrouver en septembre. En juillet et en août, vous pourrez entendre, tous les jours de la semaine, de 17h à 18h, dans l'heure du documentaire, les rediffusions de Sur les docks, La fabrique de l'histoire et les ateliers de création. L'été a commencé. Nous allons entrer dans la nuit, comme on en a l'habitude, avec une voix que vous connaissez, qui est celle des soirées de France Culture et à qui nous promettons de garder les nuits magnétiques. Il sera bientôt minuit. C'est la dernière émission pour Du jour au lendemain. Alain Weinstein, ce soir, a un invité bien particulier.